Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et comme toujours, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy.
Hey, salut Mario. Pas malade, t'as pas le coronavirus?
Non, en pleine forme.
En pleine forme, bon.
Parce que bien. Souvent, nous autres, l'hiver, les gens ont des rhumes ou des grippes, mais moi, rien. Cette année, là, c'est peut-être une des premières fois que je vais pouvoir dire que je vais passer l'hiver aucun microbe.
Hein,
ah, ben toi aussi, ben parfait. Donc, faut se tenir loin des microbes. surtout s'ils viennent de la branche Corona, là. Ça peut être un peu nocif. Guy,
oui.
Ton mois de mars, tu as des formations, là, toi, qui s'en viennent autour de avec Kubernetes.
Oui, oui, j'ai toujours ma formation Kubernetes avec Azure de 3 jours qui s'en vient fin mars. On est en 2020, c'est ça. Puis ensuite, j'ai quelques formations, là, Québec, Montréal, puis Toronto. Puis là, j'essaie de trouver une salle pour Ottawa là aussi, là, pour une formation Kubernetes plus générique, là, qui touche pas Azure là, spécifiquement, ou AWS ou Google Cloud, mais un petit peu plus générique. Ça va être une formation de 2 jours, celle-là. Puis aussi, toujours disponible sur demande dans l'entreprise. Si vous voulez former vos équipes, je suis disponible.
Les auditeurs qui écoutent ce podcast-là dans 1 an ou 2 ans, bien, ils peuvent toujours aller à la même adresse parce qu'il y a des fortes chances qu'il y ait encore des cours qui se donnent. Donc, c'est quoi? C'est l'adresse email, on va la mettre sur le site web, mais je pense que c'est facile à se mémoriser.
Ben oui, c'est kubernetes.ac pour Académie. Kubernetes.ac.
Puis Kubernetes avec un S.
Oui, oui.
Aujourd'hui, notre invité est Étienne Tremblay. Bonjour Étienne.
Bonjour. Bonjour à vous deux.
Hey, salut.
Coudon, t'es en train de t'étouffer par toi-même.
Ah, t'as peut-être le virus, toi, là.
J'ai fait un hackathon à Concordia au début de l'année. Je pense que c'était en février, je pense. Puis j'ai pogné un méchant virus, moi. Je pense pas que c'était le coronavirus, mais j'ai été malade pour quelques jours, en tout cas.
Oh. Une chance qu'on fait les enregistrements à distance parce que la technologie moderne fait en sorte qu'on n'a pas forcément besoin de se rencontrer maintenant pour enregistrer, mais si on avait fait ce podcast-là il y a plusieurs années passées, il fallait absolument être un à côté de l'autre, donc on serait probablement un peu plus loin de toi.
Effectivement.
Ouais, puis aujourd'hui, on a eu l'annonce que le MVP Summit allait être virtuel cette année. Là,
effectivement.
Justement. Donc, c'est une tendance lourde, là, je pense, cette année.
En début 2020, oui. C'est triste. MVP Summit, c'est toujours, la rencontre de tout le monde. Puis c'est le networking en personne. C'est ça qui est agréable. Fait qu'en tout cas, c'est triste que ça va être virtuel maintenant.
Juste pour nos auditeurs qui sont un peu moins familiers, bon, ici, on parle d'une conférence de Microsoft, mais une conférence privée où ils invitent à Seattle tous les gens qui gagnent le fameux prix ou la reconnaissance MVP, là, c'est un prix annuel. Puis ça fait partie justement du prix de pouvoir aller passer une semaine sur le campus de Microsoft et rencontrer les équipes de produits. Puis là, ben, ils nous ont annoncé aujourd'hui que ça a lieu, cette rencontre-là, en mi-mars, mais là, c'est reporté. Puis on sait qu'il y a beaucoup de conférences qui ont été reportées dernièrement.
En fait, c'est pas reporté, hein. C'est complètement. Il y a des conférences qui sont annulées complètement. Mm-hmm. Celle-ci va avoir lieu, on sait pas trop comment, mais ça va être. On nous dit qu'on va avoir des sessions en ligne. Là. Mais là, on parle même peut-être que Build serait annulé. Là.
Effectivement. T'es mieux d'installer Teams, en tout cas. Ça va être dans Microsoft Teams.
Oui, ils vont pousser leur... Ils postent leur produit, hein. Donc, Étienne, on veut parler avec toi aujourd'hui de GitHub Actions, qui mm-hmm. est une nouvelle fonctionnalité dans GitHub. Puis moi, pour commencer notre discussion, c'est toujours la même formule, hein. Avant même de parler de GitHub Actions, on veut permettre à nos auditeurs de te connaître un peu plus. Puis il y a beaucoup de nos auditeurs qui doivent te connaître parce que tu dois avoir fait une dizaine ou une quinzaine de podcasts avec nous depuis les 15 dernières années.
Mm-hmm.
Parce que t'as même un invité, je pense, la première année en 2004. Puis là, ben presque 15 ans plus tard. Que...
ça fait plusieurs années que je fais des podcasts avec vous autres, effectivement. Puis mon gros changement cette année, c'est que je suis rendu un consultant indépendant. Donc, j'ai quitté Imaginet et puis... Je suis à mon compte.
T'es un freelance, comme ils disent en France.
Un freelance, exact. Puis vous me l'aviez dit tous les deux que ça fallait que je fasse ça. Et puis ben j'ai fait le saut cette année et puis je suis très content. Ma compagnie s'appelle Tega Solutions, donc T-E-G-A-A-A Solutions avec un S. Et puis je fais de la migration de TFS vers le cloud. Je fais de la formation, je fais de la consultation en DevOps. C'est pas mal ça, mon dada depuis que je fais de l'informatique depuis au moins une quinzaine d'années. Donc, c'est là-dedans que je me suis lancé à mon compte.
Mm-hmm. Puis, ben, encore cette année, tu as reçu la reconnaissance MVP, justement sur Azure DevOps. Puis toi, ça fait 13, 14 ans là, maintenant que tu reçois le prix à tous les ans. Donc, on disait à la blague un peu plus tôt que tu faisais des podcasts avec nous, mais dès le début, tu as fait des premiers podcasts sur le produit qui s'appelait TFS, Team Foundation Server, qui est l'ancêtre de ce qui est maintenant Azure DevOps.
Effectivement.
Par les années 2005-2006. Puis aujourd'hui, on est plus sur Azure DevOps et même, tranquillement pas vite, là, tu commences à élargir ton champ d'action pour t'intéresser beaucoup à GitHub. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on fait un podcast avec toi autour de GitHub aujourd'hui parce que c'est aussi un outil qui va servir de plus en plus pour tout ce qui touche le DevOps. Mm-hmm. Juste pour la petite histoire, Étienne, GitHub, là, pour nous, j'imagine que ça ne peut pas exister, mais imaginons qu'on ait un auditeur là, qui est peu familier avec GitHub. Mm-hmm. C'est quoi ça, cette affaire-là?
Bien, GitHub, c'est, si tu recules juste un petit peu plus, GitHub, c'est évidemment un site où est-ce qu'on peut envoyer notre code source, donc nos repositories, mais on a besoin, si on recule, on a besoin d'utiliser Git, donc le gestionnaire de code source DVCS là, distribué. Et puis, Git, la façon qu'il fonctionne, dans le fond, c'est que tu fais toutes tes choses localement, puis à la fin, ben, tu peux pousser ton code dans un remote, qu'on appelle ça un serveur distant. Et puis, ben, GitHub, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont dit, nous, on va être le repository ou le remote qui va être disponible sur l'Internet, qui va être gratuit, puis tout le monde va être capable de se servir de nous, ce site-là, GitHub, pour stocker l'information qu'ils veulent partager entre plusieurs équipes, si tu veux. Donc là, ils ont commencé avec ça. C'était le premier but. Puis après ça, ben ils ont élargi un petit peu les compétences. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça? Ils ont rajouté un peu des items. Donc, on a des problèmes avec le code. Comme si on ferait le parallèle avec TFS, fais-moi un item de travail qui est « Hey, j'ai un problème, j'ai un bug, j'ai quelque chose. » Puis après ça, ils ont été un petit peu plus loin. Puis ils ont dit « Ben, on va mettre des conversations. » Donc, on va pouvoir prendre un de ces items-là. Puis après ça, chacun peut parler dessus. Puis là, on a une espèce de filon, un fil d'Ariane. Non, c'est pas un fil d'Ariane, effectivement. C'est un fil de conversation où est-ce qu'on peut voir le monde dire « Ben là, moi, je pense ça, t'as-tu fait ça? » On peut relier ça avec un autre bug ou issue. Il y a ça, tu appelles ça des issues. Et puis, donc ça l'a amené ce que tu parlais avant le podcast qui est le social coding, si tu veux, où est-ce qu'on est capable de se parler entre nous quand on est en train de développer, que ce soit un bout de code ou un issue, là.
Puis ce qui a fait, je pense que GitHub est devenu un des joueurs importants de tout l'écosystème du développement logiciel, c'est que eux, initialement, ils ont accepté beaucoup les gens qui faisaient des projets open source. C'était comme, venez sur notre plateforme, on va vous héberger là, sans problème.
Et
ce qui semblait tout petit dans les années 2008-2009, quand ils ont démarré, avec les années, bien, ils se sont retrouvés à avoir des millions d'utilisateurs. Puis, comme tu dis, ils ont développé beaucoup tout ce qui est autour du social coding ou le codage social. Je ne sais pas si c'est une bonne traduction en français. Et c'est quand, il y a un an, deux ans maintenant, Microsoft a acheté GitHub.
Ça, c'était pour la modique somme de 7 milliards de dollars, oui. je présume que le fondateur, il n'est pas triste de ça.
Puis, je sais qu'au début, quand on a appris que Microsoft achetait GitHub, beaucoup de gens disaient « Ah oui, c'est une façon pour Microsoft d'acheter des développeurs parce que les développeurs sont là, donc on achète la plateforme, donc forcément on va avoir les gens qui vont suivre. » Puis il y a même eu il y a des gens qui disaient « Non, non, nous autres, on veut plus aller sur GitHub parce qu'on veut pas être associé avec Microsoft. » Puis Microsoft a mis ça très clair dès le début que la plateforme GitHub resterait ce qu'elle est, qu'ils ne feront pas quelque chose d'autre, que ça serait toujours le même bon vieux GitHub qu'ils connaissent. Puis effectivement, on a vu qu'il n'y a pas une migration beaucoup des développeurs. Puis moi, je sais pas ce que tu en penses, Étienne, mais je suis pas sûr que le but vraiment de Microsoft, c'était d'acheter des développeurs. Moi, je pense qu'ils ont perçu en avance que le futur du développement serait de plus en plus de réutiliser du code, de ne pas l'écrire. Et quelle est la façon la plus simple aujourd'hui de réutiliser du code? C'est de prendre des librairies, des projets open source qui ont déjà été faits. Puis le danger que les entreprises ont quand ils veulent réutiliser des choses qui ont été faites dans des projets open source, c'est qu'ils ne sont pas sûrs. Est-ce qu'il y a des bugs? Est-ce qu'il y a des... Tu sais, c'est quoi la solidité? Puis souvent, on allait voir sur GitHub, dit, est-ce que le projet est actif? Est-ce qu'il y a beaucoup de j'aime? Comment il y a de monde qui appuie ce projet-là? Comment il y a de contributeurs? Puis, c'était beaucoup des critères qui nous faisaient dire, ah oui, OK, je peux prendre cette librairie-là puis l'intégrer dans mon produit. Puis je pense que c'est ça qu'ils ont compris, c'est que le futur de la réutilisation va peut-être passer beaucoup par la capacité de prendre des projets open source puis voulait être au cœur de ça.
Peut-être que
t'as peut-être une autre vision, Étienne.
En fait, j'ai pas. Je suis pas mal d'accord avec ce que tu dis. Puis, oublie pas qu'avant que Microsoft achète GitHub, il était le plus gros contributeur sur GitHub. Microsoft aussi. Lui-même. Donc, au lieu de dire. À l'époque, quand l'achat s'est fait, au lieu de dire Facebook, Google nous achète ou achète GitHub, là, on a la moitié de notre code qui c'est tout notre code open source qui est là-dessus. Puis c'est géré par une autre plateforme, par un autre, si tu veux, un autre fournisseur. Pas nécessairement quelque chose qu'on voudrait. Fait qu'ils ont fait une offre qui était, je pense qu'il était pas mal plus grosse que les autres. Juste pour s'assurer qu'il était pour finir avec, dans le fond.
Ouais, parce que Google était aussi dans la course. Parce qu'à cette époque-là, GitHub arrivait au bout de son financement, là, je pense. Là, puis c'était pas une compagnie qui était rentable. Là,
ben, donc, considérant que tout pas mal sur GitHub, c'est gratuit ou c'était gratuit. Puis, ouais. Comment tu finances ça avec des annonces, des choses? Puis, tu sais, il n'y avait pas vraiment d'annonces sur GitHub, là. Fait qu'à un moment donné, tu sais, quelque part, ça marchait probablement avec des subventions ou des tu sais, le monde donnait une portion. Les grosses compagnies qui étaient hostées là, probablement Microsoft subventionnait déjà un peu, là, par la bande, là, mais là, ils ont dit, ben, regarde, on va juste prendre compte.
Ben, le modèle de revenu, c'était les repos privés. Donc, les compagnies pouvaient acheter des repos privés. Mais
ça ne devait pas générer des centaines de millions de dollars par année. Là, ça,
ouais, puis il faut faire attention aussi parce que, tu sais, on parle de GitHub, mais il y a deux GitHub. Hein. GitHub.com, c'est public. Donc, tout ce qu'il y a là-dessus, généralement, ou en tout cas, en grosse majorité, c'est des repos publics. Quand tu deviens un GitHub Pro, là, t'as une façon de faire des repos privés en arrière de la couverte. Puis ça, effectivement, il faut payer, je pense, c'est 7$ par année ou quelque chose comme ça. Mais il y a aussi GitHub Enterprise qui est un penchant où est-ce que tu peux installer ça à l'intérieur de ton entreprise. Mais il y a aussi un GitHub Enterprise dans le cloud. Donc, info nuagique aussi. Et puis, c'est payant complètement. Là. Donc, il y a comme plusieurs saveurs de GitHub, là, si on veut. Fait que faut. Puis après ça, tu compares ça avec Azure DevOps, qui a aussi beaucoup de choses. Puis Azure DevOps Server, qui est le penchant de mettons, GitHub Enterprise, mais d'un point de vue interne, là, donc on-premise. Là.
Mais là, tu amènes un point important peut-être à noter, nos auditeurs. Tu viens de comparer avec Azure DevOps, parce que beaucoup de gens disent, mais écoute, ce que faisait GitHub, Ben, Azure DevOps faisait beaucoup de ces fonctionnalités-là, que ce soit de fournir justement la capacité d'héberger ses propres repos Git, de pouvoir construire ses builds, de pouvoir déployer, de pouvoir gérer des systèmes de travail. Donc, il y avait un certain overlap entre les deux produits. Puis souvent, les gens maintenant vont comparer les deux produits, qui est que les deux appartiennent à Microsoft.
Tout à fait. Puis ça, c'est problématique parce que y a évidemment GitHub, comme c'est dans le nom, là, GitHub. Là. Donc, Git, c'est un gestionnaire de code source. Donc, GitHub, ben, c'est un gestionnaire de code source qui est public, dans lequel tu peux mettre tes repos publics dans le cloud pour les accéder. Et puis, TFS ou Azure DevOps Service, ben, évidemment, tu as une portion qui s'appelle repos dans Azure DevOps, mais ça, c'est des repos privés. Ils ont rajouté, je pense, il y a un an ou deux, on peut maintenant faire des repos publics, mais c'est pas par défaut. Tu sais, c'est l'inverse de GitHub. GitHub, quand tu crées un repo, généralement, tu vas créer un repo public, puis tu vas payer pour faire des repos privés, tandis que Azure DevOps, tu fais des repos privés en premier.
Puis tu payes aussi en partant.
Mais tu ne payes pas vraiment pour faire un repo public, là, mais tu payes pour le service de toute façon. Là. Mm-hmm. Mais Azure DevOps, évidemment, ça fait beaucoup plus. Ça fait la gestion des thèmes de travail beaucoup plus que les issues qu'on a dans GitHub. Tu peux faire des PBI, tu peux faire des tâches, tu peux faire des bugs, tu peux faire des tests. Tu sais, il y a beaucoup plus d'items que de choses que tu peux faire dans les items de travail ou dans le board, ce qu'il appelle.
Ça te permet de gérer ton processus Scrum ou ton processus Agile.
Exact.
Tu pourrais difficilement faire avec GitHub.
Exact. Mais tu as aussi gestion des tests, tu as aussi gestion des pipelines CI/CD qu'on va parler dans deux minutes quand on va parler d'Actions. Puis tu as aussi une portion artifacts où est-ce que tu peux pousser tes packages NuGet. Puis GitHub a une portion packages qui est l'équivalent un peu de artifacts. Et puis GitHub a aussi Actions qui est un peu l'équivalent de pipelines. Là.
Fait que, nous, aujourd'hui, on veut parler d'Action sur GitHub.
Ouais.
Tu l'as dit, on va le comparer beaucoup avec Azure Pipeline, donc avec les fonctionnalités Pipeline qui sont intégrées dans Azure DevOps. Moi, juste avant qu'on parle d'Actions, je suis sûr que nos éditeurs se disent, mais là, il y a deux produits. Là. Il y a Azure DevOps d'un côté, il y a GitHub de l'autre bord. Ça veut dire quoi? Est-ce que Microsoft a l'intention de continuer ces deux produits-là ad vitam aeternam en parallèle? Puis il faut prévoir qu'à moyen long terme, ça va fusionner ou en tout cas, il va avoir une seule plateforme.
Moi, je pense que... Tu mets Étienne sur le spot, là.
Oui, tu mets sur le spot un peu, puis là je vais mettre des gros guillemets là, de spéculation ici. Là. Mm-hmm. Et puis, ce que je vais dire, c'est que moi, si j'avais changé de nom 4 ou 5 fois au cours de mon existence de 15 ans, puis là, je parle de notre ami TFS qui était VSTS, qui est devenu TFS, qui est devenu Visual Studio Online, VSO, qui est redevenu VSTS, puis qui est rendu Azure DevOps maintenant. est-ce qu'on
pense... À tous les deux ans, il changeait de nom.
À peu près. Donc, est-ce qu'on pense qu'il se cherche d'un point de vue identité? Peut-être. Puis, quand on parle de GitHub, puis j'ai payé, moi, de ma poche 7 milliards de dollars, je pense que je veux réutiliser mon brand. GitHub, c'est très, très connu. C'est tu parles de Git, tout le monde, la première affaire qui vient à leur esprit, c'est GitHub. Donc, c'est sûr qu'ils ont acheté des clients, les repos, ces affaires-là, les développeurs, comme tu parlais tantôt, mais ils ont aussi acheté le brand. Parce que le brand est très, très, très reconnu. Donc, si tu me demandes, est-ce que ça va merger, est-ce que ça va... Moi, je te dirais qu'il va y avoir toutes sortes de mettons qu'on utiliserait un mot anglophone, cross-pollination. Donc,
ça va se polliniser d'un côté comme de l'autre.
Exact. Mais, ils vont emprunter...
À terme, la marque GitHub devrait probablement être celle qui va être gardée. Puis
Moi, je sens un sixième nom, un sixième changement de nom. Puis dans l'espoir que ça ne s'appellera pas Azure GitHub, mais que ça va rester GitHub, quelque chose avec GitHub dedans, en tout cas. Ça, c'est sûr.
Mais pour notre discussion aujourd'hui, on veut parler de GitHub Action, donc les actions qui est une fonctionnalité dans GitHub. Puis, comme je disais un peu plus tôt, c'est comparable à ce qui se passe du côté de Pipeline dans Azure DevOps. D'ailleurs, c'est les mêmes personnes là, qui travaillent sur les deux produits. Peut-être pas toutes les mêmes personnes, mais il y a eu beaucoup de pollinisation entre les deux groupes. Puis, on trouve beaucoup de choses comparables. Donc, juste pour à haut niveau, là, qu'est-ce que c'est GitHub Action?
Bien, GitHub Action, c'est GitHub, évidemment, on avait le code, on avait des issues, donc on pouvait dire j'ai un problème, j'ai un bug, j'ai quelque chose avec ton bout de code, est-ce que tu peux regarder ça? Puis là, on pouvait avoir une conversation. Puis après ça, bien, on était comme un peu pris là. Là, il fallait qu'on prenne un produit open source pour compiler notre code. Puis après ça, prendre possiblement ce même produit open source-là pour le déployer. Puis là, on va faire vraiment, soyons clairs, entre CD, là, parce que CD, c'est utilisé à beaucoup de sauces. Puis il y a deux façons d'appeler ça. Là. Il y a Continuous Deployment puis Continuous Delivery. Okay? Donc, Azure DevOps, les pipelines, ils peuvent faire du Continuous Delivery puis ils peuvent faire du Continuous deployment, OK? On peut faire les deux. Mais quand on compare avec beaucoup de produits qui font du, ce qu'ils appellent, entre guillemets, du CI/CD, à la Jenkins, Travis, et ces choses-là.
Donc, CI pour Continuous Integration, puis CD pour Continuous Deployment?
Ou Delivery, OK? Mm-hmm. Donc, le D, c'est un ou l'autre. Donc, Azure Pipelines, il fait du Delivery ou du deployment.
C'est quoi qui différencie delivery versus déploiement? C'est quoi le grand différenciateur?
Ben, un déploiement, c'est j'ai du code, envoyez-le quelque part. Ça, je peux compiler mon code, l'envoyer quelque part. Ça, c'est du continuous delivery. Ça, c'est du continuous deployment. Ouais. Du delivery, c'est qu'on veut mettre du auditing dans qu'est-ce qu'on fait. Donc, on veut l'envoyer en test. Puis, on veut avoir quelqu'un qui approuve. On veut avoir peut-être des barrières avant qui font de la gestion de est-ce que mon code est solide, okay. Est-ce qu'il peut s'en aller d'une place à une autre. Puis là, on a multi-environnement avant que ça se rende en production.
Donc, le delivery, c'est que là, tu vas gérer tout ton workflow, donc tout ton flux de travail pour prendre ce que tu as compilé puis vraiment le déployer sur les multiples plateformes ou les multiples targets que tu peux avoir, les multiples cibles que tu peux avoir. C'est ça la grosse différence.
C'est exact. Puis c'est surtout... Flow. C'est le flow, mais c'est surtout le auditing. Donc, il y a du monde qui approuve que ça l'aide d'un environnement à un autre. Donc, il y a des traces. Donc, tu es capable de suivre. Tu es capable de dire ce build-là, il est allé à là. Il est allé en production. Qui l'a approuvé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça serait du delivery. Puis du deployment, c'est juste, j'ai un bout de code, envoyez-le sur une machine. C'est facile de faire ça. Okay. Donc, Jenkins fait ça. La majorité des produits qui se nomment, encore une fois, entre guillemets, du CI/CD, ils font du deployment, ils font pas du delivery.
Puis là, le GitHub Action, donc c'est sûr que les gens de GitHub ont dit, nous autres, on fait du CI/CD, ils font du delivery ou du déploiement, eux autres
aussi? Ils font du déploiement, eux autres. Okay, donc, c'est très comparable à Jenkins, puis à Travis, puis ces choses-là.
Donc, grosso modo, avec Action, tu vas être capable de compiler, de construire ton code, c'est-à-dire compiler, puis créer tous les artefacts, ou en tout cas les livrables que tu as besoin. Puis après ça, tu vas être capable de les déployer, mais pas de gérer le processus de déploiement.
Absolument. Tu vas être capable de dire, envoyez-les dans Azure, dans un Azure website. Donc ça, c'est une tâche que tu dis, ben compile, puis à la fin de ma compilation, déploye-les dans un bucket. Mais il n'y aura pas envoyé dans cet environnement-là, ensuite envoyé dans cet environnement-là. Puis entre les environnements, surtout qu'il y a des barrières de gestion de qualité, puis d'authentification, puis qui a le droit, puis qui a le de dire j'accepte, puis donc toutes sortes de mettons des choses qui sont plus importantes d'un point de vue entreprise pour faire de la livraison de logiciels versus un déploiement de logiciels.
C'est ça. Mais pour beaucoup d'équipes qui gèrent des projets open source ou qui géraient peut-être des projets plus simples, Eux, de juste avoir un engin intégré dans GitHub qui te permet de faire du CI/CD, donc d'avoir des actions, c'est probablement un plus. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas besoin de sortir de la plateforme et ils sont capables de se mettre à automatiser leur déploiement. Puis pour eux, ça doit être comme fantastique.
C'est fantastique parce qu'ils restent dans GitHub, ils ont une trace de qu'est-ce qui a été buildé, ils peuvent déployer leur build directement dans les packages ou les releases qu'il y a dans GitHub. Donc tout est intégré là, dans leur petit monde, fait qu'ils n'ont pas besoin d'aller en dehors chez même utiliser Azure Pipeline ou Jenkins ou d'autres, ils peuvent tous rester dans GitHub pour faire ce qu'ils ont à faire. Puis comme tu dis, la majorité des projets open source, où est-ce qu'ils te produisent un package NuGet ou ils te produisent une librairie de DLL ou tout ça, ils ont pas besoin de faire du delivery. Ils ont besoin de faire du déploiement. Build mon affaire puis mêlez là pour que tout le monde s'en serve dans le fond.
OK. Mais là, on disait que GitHub, bon, il y a des versions entreprises, mais la majorité des gens utilisent la version gratuite. Quand tu veux faire du déploiement, c'est-à-dire que tu veux utiliser les GitHub Actions qui sont disponibles autant dans la version publique gratuite que dans la version entreprise, est-ce qu'il faut que tu sortes des dollars?
Non, tu ne sors pas de dollars. Quand faudra aller sur le site de GitHub directement. Là. Quand tu es dans les repos publics, free, tu as tant de minutes puis tout ça. Il y a une espèce de nombre d'affaires puis après ça, ils font juste te couper. Donc, ils disent, ben, t'en as fait 5000 aujourd'hui, ben, tu peux plus en faire aujourd'hui.
OK, donc, c'est vraiment une façon pour Microsoft d'inciter les organisations qui eux autres utilisent plus que juste la base pour dire, ben, toi, tu serais probablement dû pour passer à la version entreprise de GitHub qui génère des revenus pour Microsoft, mais pour GitHub. Parce que c'est une façon pour eux de rendre... parce que c'est sûr que Microsoft voulait acheter pour 7 milliards de dollars, mais leur objectif, c'était pas de dire on veut que ça soit une compagnie à perte pour les 20 prochaines années. Justement, quand Microsoft achète quelque chose, c'est qu'ils voient qu'il y a moyen de faire de l'argent avec. Donc, eux, en mettant en place les GitHub Actions, c'était probablement une façon d'amener de plus en plus de clients vers la version entreprise de GitHub.
Bien, c'est aussi pour faire un pied de nez à leurs compétiteurs. Pour dire, tout le monde était dans GitHub, mais il fallait qu'ils prennent un compétiteur pour faire du CI/CD, mais maintenant, ils font juste dire, regarde, reste chez nous, on t'offre toutes les affaires chez nous. Fait que t'as pas besoin d'aller chez Jenkins ou Travis ou ailleurs. Tu peux te servir de Azure Pipelines si tu veux faire du delivery, puis t'as besoin d'un peu plus de contrôle et tout ça. Mais si tu fais juste faire du deployment, sers-toi des GitHub Actions, puis tu vas être ça.
Puis j'ose, j'imagine, à cause de la pollinisation entre les deux équipes de Azure DevOps et de GitHub Action, on peut penser que dans 2 ans, 3 ans, en tout cas dans un certain nombre d'années, le delivery va aussi se retrouver dans le produit de GitHub. Ça serait logique de le penser.
Ça serait pas, ça serait logique. Si on fait de la spéculation, ça serait pas. Pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, rendu là.
Mais surtout que ça permettrait encore à l'équipe, à GitHub, de garder leur avance sur... Parce que les produits comme... les produits de déploiement compétiteurs, eux autres, vont voir qu'ils se réajustent, vont voir qu'ils se disent, bon, mais comment on réussit? Il y en a peut-être quelques-uns de ceux-là qui vont avoir de la misère à survivre, mais il y a probablement quelques joueurs qui vont réussir quand même à trouver leur niche, mais tranquillement pas vite, les
tops
vont essayer de prendre le marché au complet. Là.
C'est ça, c'est quoi qui les démarque de Microsoft qui fait Pipelines, qui fait du delivery puis du deployment, puis GitHub Actions qui actuellement fait du deployment, mais qui, comme tu dis, ce ne serait pas impensable de penser qu'ils vont faire du delivery éventuellement. Tu sais, quand tu es Jenkins, puis toi, la seule chose que tu fais, c'est que tu as un pipeline de CI/CD, puis tu n'as pas de gestion de code source, tu n'as pas de thème de travail, tu n'as pas de... Tu sais, tu es juste un orchestrateur. Ben des orchestrateurs, il y en a plein, puis il y en a des meilleurs qu'eux autres, tu sais.
Ben là, il y a la résistance au changement, c'est-à-dire que les gens qui utilisaient Jenkins vont probablement continuer à utiliser Jenkins un bon bout de temps parce que ça marche, pourquoi les gens changeraient? Donc, il y a souvent ça qui est un facteur qui fait. Mais on sait qu'à moyen, long terme, à un moment donné, ces produits-là vont voir... leur épiphanie, ou en tout cas, vont vivre la dure compétition que le marché de l'informatique évolue, puis qu'à tous les 5 ans, tout change. Là. Puis on arrive dans un monde très cloud, où le développement se fait de plus en plus sur GitHub. Puis, puis Microsoft, c'est vers ça qui tranquillement pas vite. Ils veulent s'assurer là, d'avoir de bien satisfaire cet écosystème-là. Donc, les fameuses actions, comment ça marche? Donc, quand tu vas sur GitHub, tu fais juste dire que tu veux créer un script. Ça ressemble à quoi l'expérience?
Ben écoute, on va juste parler des grands thèmes qu'il y a dans Action. Okay? Donc, c'est donc une plateforme de CI/CD, donc deployment. Mm-hmm. Ça fonctionne sur toutes les plateformes, donc Linux, Mac, Windows. Tu peux compiler tes affaires sur toutes ces plateformes-là. Et même, ce que je lisais aujourd'hui, parce que je n'étais même pas au courant de ça, mais tu peux installer un agent local sur une de tes propres machines, chez toi, là, dans une VM, peu importe, puis dire à GitHub qu'ils viennent exécuter le build puis le déploiement chez vous. Comme Azure DevOps, dans le fond. Ça s'appelle self-hosted, mais c'est donc tu as ça là-dedans. On l'a dit tantôt, c'est built-in dans GitHub, dans le workflow de GitHub. Donc, c'est trigger. Tu peux avoir des triggers qui vont partir des actions quand quelqu'un va fermer un issue, quand quelqu'un va parler sur, une modification sur un issue, ou un pull request. Quand il y a un pull request qui est terminé, pas au moins un workflow.
Ce que tu m'expliques, Étienne, est intéressant. Ça veut dire que c'est aussi intégré dans tout le fameux Git flow, là, c'est-à-dire toute la partie sociale, où est-ce que les gens s'échangent des messages. Donc, ça s'intègre là-dedans aussi. Donc, ça, c'est pas comme si c'est à côté. Là. Ça rentre littéralement dans le même flux d'échange de conversation.
Exactement. Il y a 5 tabs en haut de 5 onglets dans mm-hmm. GitHub, là, ton source, tes affaires, tout ça. Puis un des onglets maintenant, c'est Actions. Donc, tu sais, ça fait partie vraiment de l'interface de GitHub. Quand tu veux faire, la nuance dans Azure DevOps, ils appellent ça des pipelines. Dans Action, ils appellent ça des workflows. Donc, il fallait qu'ils donnent un nom différent. Mais quand tu crées un nouveau workflow, tu as des templates déjà tout faits. Donc, tu dis, moi, j'ai un projet Node, compile-moi un projet Node, puis il va te mettre un paquet d'affaires. On va parler là, du format dans quelques minutes, là. Mais il va te faire un fichier avec toutes les actions que tu as besoin de faire pour compiler une application Node. Donc, NPM install, NPM compile ou TSC si tu fais du TypeScript ou peu importe. Là. Donc, il va faire ça pour toi.
Tu sais, dans les catégories justement d'actions, est-ce qu'il y a des actions un peu plus génériques ou parce que quand j'entends le mot workflow, moi, ça me fait penser que peut-être que les gens de GitHub voient ça plus large que juste pour faire du CI/CD. Peut-être qu'ils disent qu'ils pourraient faire beaucoup d'autres types d'automatisation autour des processus de travail, puis tranquillement pas vite intégrer ça avec leur workflow. Est-ce que ce serait envisageable ou il n'y a pas vraiment de piste vers ça dans le produit pour l'instant?
Moi, je vais te dire franchement, je vois pas de piste qui ressemble à ça. Okay. C'est beaucoup plus proche de Azure Pipelines là, d'un point de vue. J'ai besoin d'une action pour compiler, j'ai besoin d'une action pour déployer dans Azure Web App, j'ai besoin d'une action pour copier des fichiers dans un output, j'ai besoin. Donc, c'est vraiment des tâches que tu peux exécuter, puis il appelle ça des steps, la même chose que dans Pipeline. Ces steps-là, dans le fond, ils font des actions. Donc,
puis là, le workflow, est-ce que, un peu comme dans le produit de Azure, est-ce que c'est finalement un markup language, c'est-à-dire c'est du YAML qui tu retrouves à avoir un fichier qui se retrouve dans ton repository?
Absolument. C'est exactement ça. C'est un fichier YAML qui doit être à un endroit particulier dans ton repo. Donc, le répertoire s'appelle .github/workflow. Donc, il faut qu'il soit là-dedans pour qu'il soit pris en compte par Actions. Et puis, comme c'est un fichier YAML que si tes auditeurs ont travaillé un petit peu avec Azure DevOps, les pipelines en YAML, à droite, il y a une série de tâches, on les voit toutes, là, puis on peut les choisir, puis là, remplir les paramètres par défaut, puis dire, ben insère-les dans mon fichier YAML. Ben, tu as la même expérience dans GitHub. Donc, à droite, tu as les tâches qui sont dans le marketplace, tu choisis les tâches que tu veux, tu cliques dessus, puis là, ils te mettent un petit bout. Eux, ils ne te donnent pas, j'ai pas remarqué là, que tu pouvais remplir des paramètres, mais ils donnent un bout de code que tu peux juste faire copier, puis après ça, tu le colles dans ton fichier direct dans l'interface web, puis tu remplis toi-même là, les paramètres qui manquent.
Donc, il y a une expérience qui est peut-être un peu plus de type programmeur, où tu copies-colles, tu codes, puis tu édites ton code, plutôt que d'avoir peut-être juste des formulaires, des écrans à remplir. Ce qui peut-être, pour beaucoup de développeurs, va être perçu positivement, parce que on...
Absolument. Puis il ne faut pas t'oublier que les pipelines de TFS sont rendus à la version 4 ou 5, là, tandis que ça, c'est rendu à la version 1. Là. Ils ont shippé la version 1 il n'y a pas longtemps. Là. C'était en preview avant. Là. Donc,
mais comme on disait,
ça n'arrivera pas ces choses-là. Là.
C'est une version 1, mais puisqu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans l'équipe de Azure DevOps qui travaillent maintenant chez GitHub,
ben, exact.
C'est quasiment comme une version 6. Ils ne sont pas partis de zéro, là, eux autres, pour créer GitHub Actions.
Ça. C'est ça. C'est une version 1 qui est pas mal plus robuste qu'une version 1 que tu aurais parti de rien. Là. Ça, c'est clair.
Donc, c'est facile à ce moment-là d'utiliser les actions dans GitHub. Là.
Non, c'est très, très facile. Juste pour finir, on peut mettre des badges sur nos repos Git pour dire notre build, il a marché, puis tout ça. Il y a des logs super comprehensive qu'on peut voir comme dans Pipeline, dans le fond, qui nous dit voici les étapes, qu'est-ce qui s'est passé, ça c'est qui s'est exécuté, tout ça. Donc, on a vraiment un log des actions puis comment ils se sont passés. Et puis, on peut enabler, si on veut voir, là, des debug mode. Donc, on veut voir encore plus de dialogues ou plus d'affaires. Là. Donc, ça, c'est vraiment la base des actions. Et puis, je te dirais qu'à 80, 85, 90%, là, il y a beaucoup de concepts qui ont été pris dans Azure Pipelines là, puis qui ont été rajoutés dans les actions. Là.
Tu parles d'Azure Pipeline. Une des choses que moi j'apprécie beaucoup dans Azure Pipeline, c'est que si tu es en entreprise, puis que bon, tu sais, toute ta gestion des identités, donc la sécurité, tu peux la gérer directement avec la sécurité intégrée dans Azure. C'est-à-dire que là, quand tu es dans GitHub, tu n'as probablement pas la sécurité qui vient d'Azure, tu as une sécurité il y a une sécurité aussi dans GitHub. Donc, les identités, tout ça, c'est toutes les identités GitHub, j'imagine.
Oui.
Puis comment il gère la sécurité à ce moment-là?
Tu n'as pas vraiment de sécurité d'un point de vue que, tu sais, quand tes visiteurs ils viennent voir ton repo Git, je pense pas qu'ils ont accès. Il faudrait que je vois comme en tant que visiteur, parce que je me log tout le temps comme dans mon repo à moi, là, mais il faudrait que je vois en tant que visiteur sur un autre site, est-ce qu'on voit l'onglet Actions? Ça se peut qu'on voit les builds, donc on soit capable de voir qu'est-ce qui s'est passé, mais je suis pas clair que, mettons, moi, en tant qu'usager, je vais sur un repo quelconque, puis je suis capable de voir les logs de qu'est-ce qui s'est passé. Ça, il me semble que c'est un petit peu trop ouvert, mais bon, en tout cas, c'est peut-être possible. J'ai pas, comme je te dis, j'ai pas essayé. Mais clairement, la sécurité de GitHub public, elle est beaucoup plus minimaliste, puis c'est normal, parce qu'ils veulent pas mettre c'est un gros, c'est pas un AD, là. Mais par contre, si tu vas dans GitHub Enterprise, ça, c'est différent parce que ça, c'est intégré avec le AD. Puis là, tu dois avoir beaucoup plus de barrières ou beaucoup plus de possibilités de mettre de la sécurité, là.
C'est vrai, c'est une des fonctionnalités pourquoi les gens restent sur GitHub Enterprise parce qu'ils veulent justement avoir de la synchronisation avec les Active Directory de ce
moment. Oui, ils veulent du single sign-on. Hein, ils ne veulent pas que leurs usagers soient besoin de créer un compte dans GitHub puis de créer un compte interne. Là.
Puis, moi, tu m'avais envoyé un petit email il y a quelques jours où tu disais « Ah, je pense parler de ça. » Je me souviens d'avoir vu le mot « secret ».
Oui.
Qu'est-ce que les secrets?
Ben, écoute, les secrets, si on prend un penchant, mettons, entre les secrets dans Azure, qui seraient dans Key Vault, par exemple, puis les secrets dans GitHub, ben les secrets dans GitHub, c'est un onglet dans Setting que tu choisis « secret ». Là, tu peux rentrer des key value pair. Okay? Donc, tu vas dire ta clé, c'est ça, ma valeur, c'est ça. Puis, c'est un secret. Et puis, après ça, tu peux le consommer donc dans les fichiers YAML. Et puis, en utilisant, là, il y a une terminologie, le dollar, bracket française.
Donc, là, si je t'entends bien, Étienne, c'est que si tu es sur GitHub, on te fournit comme un équivalent de Key Vault à même GitHub.
Non.
Je pose la question parce qu'on sait que Kevol, qui est un service payant sur Azure, c'est pour mettre toutes tes choses de sécurité qui sont. C'est comme un coffre-fort, là. Donc, il n'y a pas un coffre-fort qu'on t'offre là, sur.
Non. C'est vraiment une section où tu mets des key value pairs que tu veux qu'ils soient secrètes. C'est surtout une place où tu mets des variables, dans le fond, que tu ne veux pas avoir à écrire dans ton fichier YAML. Parce que, comme on le sait, le code sur GitHub est public. Donc, tu ne veux pas mettre tes variables ou tu ne veux pas mettre tes secrets directement dans ton code, puisque là, n'importe qui pourrait aller voir ton pipeline puis dire « Ah, tiens, il y a un secret pour aller écrire
ben oui, dans... » son mot de passe pour entrer sur sa base de données, c'est ça. Bon, ben je...
Exact.
Donc, je connais l'URL, donc on va aller s'amuser puis on va aller chercher les 100 000 noms de ses clients.
Puis on s'entend qu'il y a du monde qui a déjà fait ça. Puis il y a du code qui s'est retrouvé sur GitHub qui avait des clés sur des compagnies, puis ils se sont fait pogner.
Il y a des bots qui scannent. Dès qu'il y a des changements, là, il y a des bots qui regardent les changements, puis sont à la recherche de clés, là, puis de secrets.
Effectivement. Fait que faut faire attention à ça. Donc, c'est là qu'on mettrait, dans le fond, nos secrets. Mais il y a aussi une action de GitHub Action qui est « Va lire des secrets dans Key Vault » aussi.
C'est ça, parce que si là, la sécurité, c'est très important parce que tu veux paye le service Key Vault, parce que ici, on parle d'un système qui va cacher tes secrets, mais qui n'est pas foolproof comme pourrait être un vrai système là, de voûte.
Non, c'est pas un système pour faire de la gestion de secrets. Il y a une section de secrets que tu peux utiliser, puis dans le fond, tu devrais l'utiliser pour mettre tes choses qui sont... Puis on s'entend, là, quand tu fais des projets open source, tu n'as pas énormément de secrets. Là. Ma base de données est là, mon repo, mon storage account où je dompe mes affaires, il est là, puis j'ai besoin mon espèce de grande clé là, de 1000 caractères de long pour aller écrire dans un blob, là. Mais tu sais, après que tu as ça, il n'y a pas tant de secrets que ça, là, tu sais. Fait que c'est correct pour d'un point de vue minimaliste. Mais si tu commences à te servir de ça avec des projets un petit peu plus d'envergure, mettons, c'est sûr que tu devrais commencer à regarder un vrai key vault.
Si tu as besoin de gérer des certificats et tout, là, tu es mieux de
exactement.
Un vrai service de voûte. OK. Donc là, j'écoute tes podcasts, tu vois, c'est cool ça. Si je ne connais pas GitHub, la façon de débuter, c'est d'aller sur GitHub, s'ouvrir un compte, puis se créer c'est un premier repo. Mm-hmm. Puis un coup, mais si tu es déjà dans GitHub, ben là, c'est juste d'aller dans l'onglet Actions, puis de commencer à créer des actions pour être en mesure de pouvoir faire de l'intégration continue pour construire, puis après ça, du déploiement continu pour déployer vers tes cibles.
Exact. Puis là, tu ne ferais pas des actions, tu ferais des workflows.
Ah oui! T'as raison. Donc, ton workflow concret qui contient, lui, des actions. Une séquence.
Exact. Mais par contre, tu peux faire tes actions custom si tu veux. Au même titre que tu peux faire des actions, des steps ou des tâches custom dans Pipeline, tu peux faire des actions custom dans Actions aussi.
Puis donc, est-ce que c'est du code JavaScript ou PowerShell comme ils font du côté de Azure DevOps ou c'est d'autres langages?
Oui, en fait, tu fais ce que tu veux. Je peux te dire là, que les agents, parce que j'ai downloadé le self-hosted agent, là, c'est le même agent que Pipeline. OK, donc ils ont pris le même agent puis ils ont juste bonifié.
On voit déjà qu'ils ramènent des choses de l'autre équipe dans l'équipe de
GitHub. Exactement. Donc, c'est très, très similaire. Le YAML file, on n'en a pas parlé, mais les différentes sections que dans ton YAML, eux autres, tu sais, si je fais la nuance entre Azure Pipelines et Actions, ben dans le YAML pour les actions, ça s'appelle on. Puis dans le pipeline, c'est des triggers. Donc, s'il y a une branche qui change, une cédule, il y a un tag, il y a un path qui change, ben part le workflow. Après ça, ils ont des jobs. Ils ont une affaire qui s'appelle run on, qui est l'équivalent de pool dans Pipeline, qui est roulé sur Ubuntu, sur Mac, sur quelque chose. Après ça, ça dit needs, qui est l'équivalent de j'ai une tâche qui s'appelle task 2 points. Ben, dans les actions, ça s'appelle needs 2 points. Puis là, tu dis needs, action, telle affaire. Mm-hmm. Après ça, il y a des stratégies où tu peux faire une matrice, là, compiler sur Linux, sur Windows, sur Mac, sur telle version de Ubuntu sur telle version de Windows. Donc, tu peux faire une espèce de matrice où est-ce qu'il va te builder toutes ces différentes versions-là que tu peux ensuite stocker dans ton releases là, qu'il y a dans GitHub. Après ça, tu as des steps. Donc, tu sais, voici tous mes steps que je veux faire. Tu peux faire du conditional avec des if. Puis après ça, tu as une affaire qui s'appelle WIT, qui est l'équivalent de input dans Pipeline, qui est voici toutes mes variables que je veux utiliser que je veux envoyer à mon action dans le fond. Ils sont très, très similaires. C'est juste qu'ils ont changé des mots. Mais toutes les mêmes affaires que tu peux faire dans Pipeline, tu peux les faire dans YAML pour action aussi.
Donc, là, Étienne, je t'écoute, puis si moi, mes produits sont déjà gérés dans GitHub, j'aurais probablement intérêt à migrer vers les actions parce que tout le flux de travail, le flux de conversation se retrouverait totalement intégré parce que là, quand je construisais avec Azure DevOps ou quelques autres fournisseurs de CI/CD, ben je sortais de mon flow. Donc là, je vois le gain quand tu es dans l'écosystème GitHub. Mais si, tu sais, par exemple, moi, là, j'ai une compagnie, on est tous sur Azure DevOps, ça serait quoi l'incitatif pour moi de dire « Ah, il faudrait que je migre vers GitHub? » Moi, je vois pas beaucoup d'incitatifs à court terme, là, parce que c'est comme l'équivalent de ce que fait Pipeline, et même un peu moins, parce que là, aujourd'hui, ils ne gèrent pas les deliveries.
Effectivement. Donc, tu viens de mettre exactement... moi, en ce temps... Tu sais, faut pas se leurrer, là. Microsoft a deux produits qui font du Git. Ils ont une affaire qui s'appelle Azure Repos, puis ils ont GitHub. Les deux, là, c'est des remotes de Git, OK? Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une convergence là-dessus, OK?
Puis on s'entend, GitHub est un brand très connu, puis exact. Azure Repo Git, encore beaucoup de monde qui pense que les Azure Repo, c'est les vieux TFS.
Absolument. Donc,
probablement que Microsoft va aller vers la brand, comme tu disais, la marque GitHub pour cette partie-là, ça c'est sûr.
Tout à fait. Donc là... Fait que ça, c'est un peu évident. Ils ne vont pas maintenir deux systèmes de gestion Git. Ce n'est pas très, très rentable d'un point de vue partager ton équipe en deux produits, rajouter des fonctionnalités qui sont équivalentes des deux bords. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire ça. Donc, c'est presque 99% sûr qu'ils vont fusionner ces deux affaires-là. Ou en tout cas, ils vont discontinuer Repo pour garder GitHub pour le brand. Puis après ça, là, quand tu commences à voir cette fusion-là, qu'est-ce qu'on fait maintenant en tant que client? Est-ce que je me logue à un portail? Je veux aller à une place. Je veux pas être à deux places différentes. Je veux que tous les onglets soient comme dans le même produit. Donc là, est-ce que ça va devenir Azure DevOps puis ils vont changer repo par GitHub? Est-ce que ça va être GitHub qui va avoir les fonctionnalités de Azure DevOps qui vont être mergées dedans? Ça, je le sais pas. Est-ce que ça va être un hybride des deux, à mon avis, ça va finir comme ça. Mais
il n'y a pas d'incitatif à dire qu'il faut que nos auditeurs qui sont aujourd'hui sur Azure DevOps changent. Ils peuvent continuer sur Azure DevOps, puis ils attendront. Puis j'imagine, de toute façon, le jour où il y aura des fusions, ou en tout cas, Microsoft va donner un chemin très bien documenté. Voici comment faire pour vous intégrer dans les deux produits. Si ça s'en va... plus sur une marque GitHub dans le futur, mais à court terme, il n'y a pas rien à changer. Là.
Écoute, Microsoft sont depuis qu'on fait de la techno avec eux autres, depuis les années 90, ils ont toujours été connus pour être backward compatible. Tout ce qu'ils font, c'est backward compatible. C'est rare qu'ils disent, tiens, on coupe la corde, puis là, faut que tu t'en ailles dans l'autre produit, arrange-toi tout seul, OK? Fait que c'est sûr.
Mais ça l'a quand même arrivé dans le passé. Là. C'est pour ceux qui ont fait du web, puis il y a des technologies qui, du jour au lendemain, sont devenues comme ah, on ne mettra plus aucun sou, puis on ne vous donne aucune technologie de remplacement. Là.
OK. On va dire que Silverlight, c'est déjà arrivé. Ouais, mettons.
J'ai lu que les gens maintenant utilisent le verbe Silverlighter, se faire Silverlighter pour dire quand on brûle une technologie puis qu'on te donne aucun chemin pour te sortir du pétrin, là.
Faire silverlighter. Oh là là là.
Yes, sir.
Mais ce sera pas le cas avec Azure DevOps. Là. Je pense pas que les gens vont se faire silverlighter avec DevOps.
La raison pourquoi je pense pas ça non plus, c'est que, tu sais, on parle d'une technologie de développement. qui doit être supporté sur plusieurs browsers puis tout ça, versus un produit SaaS qui est vraiment un produit là, que ils vont,
un service,
vont et c'est ça, c'est un service qui vont bonifier, là, qui va évoluer. Écoute, Azure DevOps, ça évolue à tous les jours. Il y a des nouvelles affaires, puis aux 3 semaines, ils mettent des nouveaux features. Donc, tu sais, c'est un produit qui évolue beaucoup, beaucoup. Là. Donc, est-ce que ça va s'hybridiser entre ces deux produits-là, puis ils vont avoir une nouvelle version Azure DevOps V3 qui va être GitHub DevOps, je sais pas trop, puis qui va avoir le meilleur des deux mondes? À mon avis, c'est oui. Puis, mais Microsoft va tenir par la main puis va t'amener vers cette nouvelle solution-là. Fait qu'effectivement, ils vont pas laisser leurs clients tiens, arrange tout seul.
Puis c'est pas quelque chose qui va arriver demain matin là, pour ceux non. qui sont sur DevOps. Là,
absolument.
Il y en a encore pour une couple d'années avant que GitHub rattrape au niveau des fonctionnalités ce qui existe présentement dans DevOps. Là, les gens sont safe, là. Ils peuvent rester sur DevOps. Puis à un moment donné, comme tu dis, il va y avoir comme une espèce de soit de migration, soit de merge qui va se faire. Fait que la façon que je vois, c'est que les gens qui sont sur DevOps, bon, ils ont juste à regarder un petit peu ce qui se passe de l'autre côté, mais ils sont safe comme ça. Puis les gens qui sont sur GitHub, ben eux autres, c'est qu'ils vont il va avoir plein de features qui vont être ajoutées au fil des années, qui au niveau de feature set, ça va finalement rejoindre ce qu'il y a sur DevOps un moment donné.
Ouais, puis écoute, faut pas se leurrer là. C'est deux plateformes SaaS qui sont sur l'Internet. Microsoft n'a pas tendance à garder deux plateformes SaaS qui font des choses similaires maintenues les deux. Là, t'sais. Fait que moi, c'est clair que dans les 2-3 prochaines années, là, ces deux plateformes-là vont fusionner. Okay? Qu'est-ce que ça va donner à la fin? Je ne sais pas, mais il va y avoir une espèce de fusion de ça. C'est sûr, parce que Microsoft n'a pas intérêt à garder deux écosystèmes qui font à peu près les mêmes affaires, puis d'avoir une espèce de problème d'identité où est-ce que le monde sont ben je prends-tu ça ou je prends-tu ça? Tu sais, c'est pas clair. Fait que pour dissuader leurs clients d'avoir à prendre des décisions, ben là, je m'en vas-tu dans ça ou je m'en vas-tu dans ça? Ils vont faire une espèce de fusion de ces deux affaires-là, puis ils vont te donner une portion entreprise. Il n'y a rien qui dit que Azure DevOps, actuellement, c'est beaucoup plus guéri vers l'entreprise. Puis GitHub, c'est beaucoup plus comme l'open source, puis les petits shops qui veulent juste partir des petits projets. Donc, il n'y a rien qui empêche que Azure DevOps devienne GitHub Enterprise, puis que GitHub reste GitHub, mais du point de vue public là, non plus. Là.
Mais moi, je pense qu'ils vont aussi comme essayer de fusionner le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'il y a des choses que GitHub amène qui sont vraiment intéressantes. Et il y a des choses qui existent aujourd'hui, par exemple le Continuous Delivery, qui vont ramener, je suis pas mal sûr, dans GitHub. Plus d'autres fonctionnalités qui existent aussi du côté de Azure DevOps. Puis à la fin, mais tu vas avoir comme les deux produits qui vont devenir peut-être un produit, ou en tout cas, il va y avoir une question de branding qui est difficile à identifier comment ça va évoluer. Nous, on postule que le nom GitHub va vraiment rester parce que c'est une marque de commerce qui est forte. Mais peut-être qu'ils vont justement appeler ça GitHub Enterprise, puis l'autre va se devenir GitHub Open Source ou GitHub OSS. En tout cas, je ne sais pas comment ils vont... On n'est pas dans le secret des dieux, donc on ne peut pas dire qu'est-ce qui va se passer. Mais clairement, ce qu'il faut savoir, c'est que si aujourd'hui on est sur GitHub, ben, les actions, c'est quelque chose qu'il faudrait, vous avez intérêt à les utiliser, surtout que c'est gratuit là, pour un certain nombre de minutes que vous pouvez utiliser par jour ou par mois, j'imagine.
Oui, c'est ben non, c'est par jour, je pense.
Ouais.
Mais c'est tout documenté sur le site, là. C'est assez clair. Quand tu peux. Puis en plus, tu peux payer si tu veux pour avoir plus de ressources. Là. Mais tu sais, mais juste pour finir la discussion, quand tu es dans GitHub, tu peux dire t'es dans GitHub directement, tu peux ajouter une connexion à Azure Pipelines pour qu'il compile ton code. Puis quand tu es dans Azure Pipelines, quand tu es dans Azure Pipelines, tu peux dire prends mon repo là, que je vais aller lire mes affaires, c'est GitHub. Donc, il y a déjà cette intégration-là dans les deux produits qui se parlent mutuellement des deux bords. Fait que là, ces deux affaires-là, éventuellement, ça va juste fusionner. Là.
Ouais.
C'est clair. Là.
OK. Ben écoute, Étienne, ça nous permet d'avoir une bonne vue d'ensemble de qu'est-ce que c'est les GitHub Actions, ou les GitHub Actions, si on les prononce à la française. Puis, ben j'espère que pour nos éditeurs, ça a été, ça leur donne un bon survol. Donc, nous, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs. On va les revoir le mois prochain. Donc, on te remercie beaucoup, Étienne.
Ça fait plaisir.
Salut, au revoir.
Salut. Studio Talk Show.